faut l'assurer si tu l'envoies.
Hein.
Faut que tu l'assures. Quand tu l'enverras, tu l'assures.
C'est là.
Le niveau, c'est là. Alors, quand.
Est-ce que Loïc Chusseau est là?
Oh, ma Dieu.
Il s'est rien passé.
Faut que tu l'envoies à Benjamin Biolay, peut-être qu'il va prendre cette lettre.
Il va falloir que je fasse un montage avec tout ça.
Bah, bon courage,
rendez-vous à la maison.
D'accord. Alors, donc j'ai imaginé un peu les titres qui auraient pu paraître dans la presse au lendemain de l'adoption de la licence globale s'il avait été adopté finalement à l'Assemblée nationale. Licence globale, prophétie d'une nouvelle économie. Licence globale, et si tout était gratuit. Licence globale, la fin de la division de l'objet. Licence globale, la fin de la vente au détail. Licence globale, tout s'achète par abonnement. Licence globale, acheter, c'est maintenant faire partie d'un club. Licence globale, les nouvelles tribus du net à l'assaut de la création individuelle. Licence globale, négocier vos droits d'auteur en bourse. Licence globale, vos créations désormais bien communs. Licence globale, vos idées vous échappent.
J'ai échoué, ça n'a pas pris. Il ne s'est rien passé. Je ne suis pas mort, juste frappé. J'ai échoué, ça n'a pas pris.
Xavier, jeune trentenaire, personnage principal des poupées russes de Cédric Lapiche, était pourtant un jeune homme, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Écrivain raté, écrivant de soupe mondialisée, blanc mais pas blême, brun mais pas frisé, joli mais pas trop, beau pour que l'identification avec la masse puisse se faire, il cherchait l'amour et la princesse de ses rêves en baisant toutes les plus jolies femmes de la terre. Rien ne laissait présager ce qu'il allait lui arriver. À la soirée de remise des Césars, le jeune Xavier a piégé la retransmission et s'est fait exploser avec l'Assemblée. Attentat suicide cinématographique qui a causé le décès de nombreuses personnalités du cinéma et de la culture, dont ses géniteurs Cédric Lapiche et Romain Duris. Nous n'avons retrouvé que leurs bites, qui seront enterrées avec tout l'hommage que l'on leur doit au cimetière Lachaise.
Auxiliaire, voilà un terme bien péjoratif, se disait Eric quand il avait appris pour la première fois qu'il ne serait pas prof à plein temps. Auxiliaire, c'est ce que sont les moteurs qui sont censés parfaitement fonctionner, mais qui sont destinés à ne servir à rien tant que tout se passe normalement. Les auxiliaires ne sont là qu'en cas de panne, de coup dur, de situation d'urgence. On préfère ne pas avoir besoin d'eux. Pour cette année scolaire, et pour bien d'autres ensuite, Eric a été la 5e roue du carrosse de l'éducation nationale. Lui se tenait prêt, comme un réserviste scrutant le désert des Tartares. Même son désœuvrement était tout entier tendu vers le moment où il serait appelé. Levé à 7h, il s'employait à tenir toujours son linge repassé, plié, à mi-donné.
En passant devant la cité des congrès, je vois des gens qui savent faire, des papiers qui s'échangent. Pitié, vous approchez pas de moi, je veux pas de vos papiers, j'ai même pas envie de vous parler d'ailleurs. Une camionnette est recouverte d'une grande feuille de papier, exprimez-vous, des voitures flottent en l'air avec des pubs pour assurance. Voilà, j'y suis, c'est Ramdam. La grande messe pour eux, les jeunes. Ça me rappelle bien sûr le CPE, la mobilisation des uns et des autres, et cette réaction d'une petite minium à la radio. Mais si tu fais bien ton boulot, il va pas te virer ton patron. Et là, on imagine les milliers de personnes derrière leur poste de radio qui sont morts de rire et qui disent qu'elle est bien gentille, la mignonne, elle va bien travailler, tout sera parfait. Ça a dû bien les faire marrer aux prud'hommes. Ah, les prud'hommes, les voilà arrivés. Voilà arrivées les premières plaintes des personnes licenciées sous CNE. Licenciement sans justification, licenciement abusif, qui va gagner la suite bientôt. Ce documentaire à la radio aussi, où une femme exposait sa souffrance au travail, son refus de prendre un arrêt maladie de 4 jours, parce qu'elle savait qu'à son retour, elle aurait perdu sa place à la fin. À la fin, la jeune femme donnait l'identité de son patron, c'était son frère, qui vivait avec sa mère, que ça avait foutu le bordel dans toute sa vie. À la fin, elle demande tout de même comment on les contacte, les prud'hommes. Cette femme qui dit dans un film, entendu un extrait à la radio, que quand elle rentre chez elle, elle trouve que tout le monde est lent. Elle parle à toute allure, 17 ans d'usine, elle a pris le rythme de la machine et ne s'arrête jamais, que ce soit au travail ou chez elle. Le livre noir de l'animation socio-culturelle que j'ai lu récemment, où l'utopie se casse la gueule, où l'on s'occupe des pauvres en créant d'autres pauvres, mais qui sont contents d'être là parce qu'ils aident les pauvres. Alors, oui, j'espère que tu vas être bien gentil, que tu trouveras un travail à fort potentiel, deviens consultante, là-bas il paraît qu'ils vont pas vous virer du jour au lendemain parce que ça doit être plus compliqué de trouver un bon consultant. Et là, j'espère que tu passeras sans embâche tes 2 années de CNE, mais je me fais pas de soucis, tu seras sûrement employé en CDI avec avec plein de zéros derrière. En tout cas, un conseil, ne choisis pas la culture et évite la carrière de caissière chez Auchan. Bon courage pour ta vie professionnelle, mignonne, garde le sourire, ça peut marcher.
Oui, ça part du principe que plus la contrainte est forte, plus l'esprit se libère. C'est un postulat.
C'est pas faux en même temps. Les contraintes sont très très fortes, du coup on ne pense plus à ce qu'on va écrire.
Puis ça a peut-être un côté un peu plus. Certains moments où des interactions.
Un homme ordinaire, un homme sans histoire, sans histoire personnelle. Un homme agit par les histoires des autres. Il passe de Koh-Lanta à l'île de la séduction, passant par le journal ou Plus belle la vie, s'identifie au petit bonheur, pas de chance, s'oublie dans celui-ci ou celui-là, parfois se perd. L'homme lambda, comme l'agneau qui bêle avec les loups, et si l'angoisse de ce vide le prend, alors il fait des histoires, et on en parle.
J'avais pris cette rue environ 4 minutes auparavant, et je n'étais pas très sûr qu'elle débouche bien sur la rue des Olivettes. Toutes les rues se ressemblent, je crois, et du moins, j'ai du mal à faire la différence. Mais la rue des Olivettes est assez grande, et en allant tout droit, en gardant à peu près le même cap au carrefour et aux embranchements, on doit tomber dessus. Finalement, cette rue, la rue Péan, j'ai vu ça inscrit au bout, donnait bien sur la rue des Olivettes. Je me perds tout le temps en ville, et quand je trouve mon chemin, c'est souvent grâce à une longue habitude, 1 ou 2 ans dans le même quartier, soit à des incantations de sioux. Bref, je relongeais dans le sens inverse la rue Péan, 4 minutes plus tard, à moins que ce ne soit pas la rue Péan. Je ne me souviens pas avoir regardé 2 fois la plaque au bout de la rue, et la rue par laquelle je me souviens être repassé était bordée d'immeubles des années 80-90, sorte de HLM moche, alors que la rue par laquelle je suis passé 4 minutes avant, dans l'autre sens donc, comportait à un moment une grille verte qui donnait sur un jardin public, et 20 mètres plus loin, la plaque rue Péan. Je fais l'hypothèse que c'était la même rue, parcourue à 4 minutes d'intervalle, et dont je n'ai pas retenu à chaque fois les mêmes éléments. Mais en repassant par cette rue, je me souviens avoir vu au bout, entre les immeubles, une percée de ciel bleu, lumineux. Le ciel bleu assez clair, j'en ai déduit que c'était le ciel au-dessus du canal Saint-Félix. Le ciel au-dessus de l'eau est plus clair forcément. Et j'en ai déduit donc que j'étais dans la bonne direction, que je remontais simplement la rue que j'avais descendue dans l'autre sens 4 minutes auparavant. Je me souviens, pendant un petit moment, avoir eu l'impression d'être complètement perdu et d'avoir avancé quand même au hasard, peut-être pour voir au bout, sur la plaque, dans quelle rue j'étais.